on fera les annonces plus tard. Je voudrais vraiment rentrer dans la pensée que le Seigneur m'a mise sur le cœur. Dans 1 Chronique, chapitre 28, nous allons lire un simple verset, trois versets en particulier dans la parole, trois lectures, mais ce premier verset dans 1 Chronique, chapitre 28, 1 Chronique 28, verset 9. Vous savez, c'est à la fin de la vie de David où il est en train de conseiller son fils Salomon. Et il lui dit en particulier, au verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins. Et toutes les pensées, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Amen. L'Éternel sonde tous les cœurs et les pensées. Maintenant, nous allons dans le psaume 139, le verset 23. Psaume 139 et le verset 23, un verset bien connu également, qui nous dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et une troisième lecture donc qui se fera dans l'évangile de Luc, le chapitre 24. Luc chapitre 24. On peut lire à partir du verset 33 pour bien comprendre le contexte. Les questions, vous savez, des disciples d'Emmaüs qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Au verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur rouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Amen. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire le lien au travers de ces trois passages. Premier nous disait que l'Éternel est celui qui pénètre les cœurs, les pensées, les desseins des hommes. Deuxième nous dit justement cette prière, « Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Et le troisième passage nous parle d'une question que Jésus a posée à ses disciples au moment où il est ressuscité. « Pourquoi est-ce que vous avez dans le cœur de pareilles pensées ?» Et je réfléchissais à ce souvenir qui me remontait quand je réfléchissais à cette question. Vous savez, quand on est étudiant pour le baccalauréat, qu'on va passer l'examen, il y a l'épreuve de philosophie. Et à l'épreuve de philosophie, ils ont toujours un sujet intéressant, entre guillemets, qui commence par « pourquoi ?». En 2014, par exemple, pour la filière d'économie sociale, le sujet c'était « pourquoi chercher à se connaître soi-même ?». Qui ça intéresserait de répondre à cette question maintenant, de retourner à l'école juste pour répondre à cette question ? Pas moi, on est d'accord. Par contre, il y a des questions que Jésus a posées qui commencent par « pourquoi ?» et qui sont tellement beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes que toutes les questions qu'on peut se poser en philosophie ou même de niveau de la science. C'est les questions que Jésus soulève parce qu'il veut nous montrer ce qui se passe dans notre cœur. Il y a des choses qui se passent dans notre cœur et qui n'ont rien à y faire. Il y a des pensées qui sont là et qui n'ont rien à y faire. Et Dieu, Jésus en particulier, nous a posé toutes sortes de questions au travers des évangiles pour mettre en relief, pour mettre en évidence que dans notre cœur, il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, ses disciples, il leur dit, pourquoi est-ce qu'il y a de pareilles pensées dans votre cœur? Et cet après-midi, je voudrais étudier juste trois pourquoi. Trois pourquoi de Jésus qu'il a posé à ses disciples. Jésus en a posé beaucoup de pourquoi, beaucoup de questions qui commencent comme ça. Aux pharisiens, par exemple, à un moment donné, il leur dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Ils étaient devant un homme qui était paralysé. Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés. » Et les pharisiens n'étaient pas contents. Et Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» À la foule, Jésus se retourne et leur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Il y avait une foule incroyable qui le suivait, mais Jésus leur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Pourquoi n'obéissez-vous pas ?» Vous voyez ? À chaque fois que Jésus donne une question qui commence par « Pourquoi ?», ça soulève des réflexions, ça doit soulever du moins des réflexions dans notre cœur, dans notre vie, et mettre à jour les pensées qui doivent être là ou qui ne doivent pas être là, et être calées par rapport à tout ça. Trois pourquoi de Jésus qui vont protéger nos pensées si nous faisons ce qu'il faut. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Vous arrivez à voir quelle histoire j'ai tiré tous ces pourquoi? Premier pourquoi, c'est pourquoi as-tu peur? Et je l'ai intitulé d'une autre manière, c'est le piège des pensées sentimentales. Le piège des pensées sentimentales, c'est-à-dire que dans notre cœur, il y a des pensées qui sont là, mais qui sont basées sur les choses que nous ressentons, sur les sentiments qui nous traversent. Et des fois, quand nous appuyons sur ces choses-là, eh bien, il y a toutes sortes de sentiments qui surgissent, la peur, l'inquiétude, le doute, toutes ces choses qui tourbillonnent en nous. Et quand ces choses sont là, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais quand on est dans le doute, par exemple, on n'est pas rassuré. Je réfléchissais, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris l'avion ? À Toulouse, il devrait y en avoir quelques-uns. Imaginez que vous prenez l'avion, à côté de qui vous voudriez vous asseoir? Est-ce que vous voudriez vous asseoir à côté de quelqu'un qui est terrorisé, qui s'accroche au siège, au décollage, qui ne fait que crier aux moindres secousses et qui est en train de vous raconter toutes les histoires de catastrophes aériennes qui ont eu lieu les 20 dernières années? Est-ce que vous voudriez être avec cette personne? Ou à côté de quelqu'un qui travaille chez Airbus, voilà, à Toulouse, qui sait comment les avions sont faits, il connaît peut-être même le pilote, et qui est tout calme, détendu, parce qu'il a l'habitude. À côté de qui on veut être assis? On est d'accord, à côté de la deuxième. Et des fois, je me suis rendu compte que, on a beau être chrétien, on voudrait convaincre les gens de faire comme nous, de suivre ce qu'on croit, etc. Mais des fois, on manifeste dans la vie de tous les jours, au travers des épreuves, on manifeste de la peur. Et ce qui fait qu'on ne donne pas envie aux gens de suivre ce qu'on leur dit. On a besoin de ne pas laisser la peur envahir notre esprit, mais d'aller plus loin. Alors, on va lire ensemble dans Marc, chapitre 4, ce passage où Jésus a posé cette question. Vous savez que c'est pendant la tempête, un court passage qui nous parle de ce que Jésus a dit à ses disciples au moment d'une tempête. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui même obéissent même le vent et la mer. Amen. Pourquoi avez-vous ainsi peur? » Est-ce que Jésus savait pourquoi ils avaient peur? Après tout, c'est une bonne question aussi. Est-ce que Jésus le savait? Et puisqu'il était le Fils de Dieu, il connaissait On a dit tout à l'heure que ça concernait l'Éternel qui connaît le cœur et les pensées, mais il est dit dans les évangiles que Jésus aussi connaissait le cœur des hommes. Et il est capable de lire dans le cœur des hommes. Et alors qu'il leur pose cette question, ils savaient très bien ce qui se passait. Mais quand il leur a posé la question, c'était pour mettre en évidence, justement, qu'il y avait quelque chose. Ils ne s'attendaient pas à ce que les disciples lui décrivent ce qui se passait. Les disciples auraient pu dire, mais regarde, Jésus, regarde la taille des vagues. Regarde le tourbillon, la puissance de ce tourbillon. Regarde la force du vent. Regarde comment l'eau elle est en train de s'infiltrer dans la barque. Regarde la profondeur des ténèbres. Écoute le bruit sourd du tonnerre qui gronde. Ils auraient pu dire tout ça, les disciples, à Jésus. Mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient, le Seigneur. Le Seigneur, il voulait aller au plus profond de leur cœur et leur montrer, leur mettre le doigt dessus ces pensées qui sont là et qui faisaient qu'ils étaient dans le doute. D'ailleurs, juste après, il leur pose une autre question. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Comment est-ce que c'est possible d'avoir foi malgré la tempête? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible déjà? Si Jésus leur reproche, je pense que c'est possible. Alors, je pense qu'ils avaient besoin de passer par là pour faire des progrès dans leur foi. Et je pense que nous aussi, on a besoin de passer par des moments comme ça, au moins d'entendre cette histoire pour comprendre que dans la tempête, on peut avoir des moments de doute, des moments de crainte, des moments de peur. Mais c'est possible aussi de marcher par la foi. C'est possible de s'appuyer sur le Seigneur. Une chose simple qui est révélée par cette histoire, c'est que comment je peux avoir la foi dans la tempête? Eh bien, c'est que je sais que Jésus est dans la barque, tout simplement. Si je sais que Jésus est dans ma vie, si je sais que Jésus est avec moi, alors il y a beau avoir une tempête, une guerre, il y a beau avoir 1000 personnes qui tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, comme dira le psalmiste, moi je ne craindrai rien. Parce que c'est les promesses de la parole de Dieu. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous avez laissé Jésus rentrer dans votre barque? Alors peut-être il y en a beaucoup qui vont me dire, mais oui, moi ça fait longtemps, ça fait des années peut-être. Mais une autre question qui va avec, est-ce que vous n'avez pas mis Jésus à la porte? Parce qu'on peut avoir fait rentrer Jésus, et puis à un moment donné, par des attitudes de désobéissance, par des attitudes de pensées qui sont là et qu'on a laissé demeurer en nous, on a mis Jésus dehors, tout simplement. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit justement que le Seigneur a une église qui avait mis le Seigneur Jésus dehors, qui se tenait à la porte et qui frappait. Si Jésus est dans notre barque, alors on ne craint rien. Et Jésus, vous avez remarqué que pendant qu'il y avait la tempête, il dormait. Et des fois, dans nos tempêtes à nous, on a l'impression que le Seigneur ne parle pas. On a l'impression que le Seigneur dort. Mais on n'a que l'impression. Parce que la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Et voilà pourquoi il faut se garder d'être piégé par les pensées sentimentales. Voilà pourquoi il faut se garder de se piéger par ces émotions qui peuvent nous traverser et qui peuvent mettre en doute la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut revenir constamment, continuellement à la parole de Dieu. Est-ce que les disciples avaient une parole de Dieu pour bien traverser la tempête? On l'a lu, hein? Jésus qui leur dit « passons de l'autre côté, passons à l'autre bord ». Ça voulait dire que Jésus il savait qu'ils allaient aller de l'autre côté. Il y avait cette parole et eux, les disciples, avaient besoin de mettre leur foi dans cette parole-là et malgré la tempête, ils auraient dû réagir en disant « Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces choses autour de nous, c'est vrai qu'il y a les vagues, etc. » Mais Jésus a dit qu'on allait aller de l'autre côté. Il est en train de dormir, ça veut dire qu'il est paisible, donc on n'a pas à s'inquiéter. Ces pensées d'inquiétude qui sont montées dans nos cœurs, ces pensées de doute, elles ne doivent pas demeurer. Je ne dois pas me faire piéger par ce que je ressens. Combien on est malheureux, nous, en tant que pasteurs, quand on rencontre des personnes qui prennent leurs sentiments au-dessus de la parole de Dieu. Une fois, on parlait avec quelqu'un et on lui disait, tu sais, jeune fille, la parole de Dieu dit ceci. Et la jeune fille répond, ah oui, la parole de Dieu dit ça, mais moi, je pense que... Vous voyez, des fois, on laisse nos pensées, nos sentiments, la façon dont on conçoit certaines choses, prendre le dessus sur ce que la Bible dit. Oui, mais est-ce que c'est nous qui avons créé l'univers et qui avons donné toutes les lois à l'univers? Ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à écouter la loi de Dieu et à nous soumettre à cette loi? Et je crois, oui, qu'on a intérêt à le faire. Dans un autre passage, c'est dans Luc chapitre 12, verset 26, je le lis pour vous. « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose Pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Il est question de ce moment où Jésus est en train de parler aux disciples et il leur dit, mais est-ce que au travers de vos inquiétudes, vous allez pouvoir rajouter une coudée à votre vie ? Est-ce qu'en vous inquiétant, vous allez pouvoir améliorer votre situation ? Pourquoi vous inquiétez-vous ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur cela. Mais dans ce passage, Jésus a insisté sur ce verset en particulier, chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand on s'inquiète des choses d'ici-bas, alors on est détourné du royaume de Dieu. Alors on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais quand on s'inquiète de mettre Dieu en premier dans notre vie, alors on est rassuré, alors on est dans la paix. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dirige notre vie ? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dirige notre vie ? Ou est-ce que c'est mes propres pensées ? Il y a un moment donné où Jésus a dit une parole à peu près semblable dans une circonstance presque similaire. Vous savez, c'est quand Pierre a marché sur l'eau. À un moment donné, Jésus lui pose une question alors qu'il est en train de couler, qu'il a saisi. Et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et là, Jésus va directement en profondeur. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas seulement la peur, il ne regarde pas l'inquiétude, il ne regarde pas tout ce qui se passe. Il va directement au cœur du problème, c'est dans le doute. Ce matin, M. Go nous lisait ce passage de l'Apocalypse et on voyait ensemble que la part des incrédules, la part de ceux qui ne croient pas, sera l'enfer. La part de ceux qui refusent de croire à Jésus, qui ont peut-être tout compris. Il y a des personnes qui viennent semaine après semaine dans cette église, qui sont capables d'entendre toutes sortes de choses, même d'être d'accord avec cela, mais qui ne cèdent jamais devant l'appel de Dieu, qui ne placent pas leur foi dans la parole de Dieu. La part pour ces personnes, malheureusement, on est obligé de le dire, sera, c'est la Bible qui le dit, la part pour les incrédules, ça sera les temps de feu, l'enfer, la seconde mort. Mais combien nous voudrions vous convaincre, si vous êtes dans ce cas, de croire en Jésus, d'avoir cette foi, la foi d'un enfant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, le Seigneur nous appelle à avoir cette foi simple, cette foi vraie, cette foi efficace, qui prend la parole de Dieu à la lettre et qui dit « Oui Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Je crois que tu veux me protéger dans mes pensées. Je crois que tu veux, Seigneur, me garder pour que je puisse marcher avec toi. » J'ai vécu une petite expérience, alors ce n'est pas du tout spirituel, c'est une expérience de la vie courante, mais à un moment donné, je me suis mis à douter. Je vous explique le contexte. J'avais besoin de changer les pneus de la voiture. Vous voyez que ce n'est pas spirituel du tout. Parce qu'il y avait une hernie sur la voiture, il vaut mieux les changer dans ce cas-là, et une hernie sur les pneus. Et donc j'avais noté la référence, j'avais appelé le garage, il m'avait dit « venez, on va prendre rendez-vous », etc. Et au garage, j'avais oublié mon papier où j'avais pris la référence. Du coup, j'ai cité de mémoire la référence des pneus, d'accord ? Puis je rentre à la maison, et puis j'arrive au moment du jour du rendez-vous, une heure avant, je ne sais pas pourquoi, je relis mon papier, et puis je relis le devis et je vois que ce n'est pas pareil. Je suis là et là, à un moment donné, quand j'ai commencé à douter de ces choses-là, j'ai commencé à me faire le film. Tu as commandé les mauvais pneus parce qu'il fallait attendre plusieurs jours de commander les pneus, etc. Tu as commandé les mauvais pneus, peut-être que tu vas devoir payer pour cela puis recommander d'autres pneus. Peut-être que tu n'auras pas la voiture assez tôt pour partir, on doit partir à la convention cette semaine. Peut-être que tu n'auras pas la voiture assez tôt, il faudra repousser, etc. Commencer à batailler dans mes pensées, vous avez compris. Et puis, à un moment donné, je regarde à nouveau mon papier et je me suis aperçu que j'avais tout simplement lu trop vite. Et que ce que j'avais écrit, ça correspondait exactement au devis. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai lu vite et je me suis fait tout le film. Et ça m'a fait penser tout de suite, au moment où c'est quand on doute, vous savez, quand on commence à douter, eh bien, les pensées, elles commencent à fuser aussi. Hein. Ça commence ça va très vite, notre esprit, il est fort pour ça. Quand on commence à partir sur quelque chose dont on n'est pas sûr, quand on a ce doute en nous, eh bien, nos pensées, elles partent dans tous les sens. Combien c'est bon de toujours revenir à la parole. Protéger nos pensées de la peur, du doute et de l'inquiétude, ça ne se passe que par la paix de Dieu. Et Philippiens chapitre 4, verset 8, vous connaissez ce texte, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et un peu plus loin, il est dit « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Parce que les paroles de Jésus, celles qu'il veut laisser sur notre cœur, ce n'est pas l'inquiétude, le doute, la peur, c'est que la paix soit avec vous. Cet après-midi, quelqu'un a peut-être besoin d'entendre juste cette parole. Que la paix soit avec vous. Dieu est venu, Dieu a permis que Jésus vienne pour apporter la paix aux hommes. Et combien nous avons besoin simplement de faire taire toutes les pensées de crainte, d'inquiétude et de saisir par la foi la paix de Dieu. Deuxième, pourquoi ? Pourquoi pleures-tu ? Et ça nous parle des pensées, les pensées qui sont intellectuelles. Après les sentiments qui sont là, qui bouillonnent en nous, on peut avoir des fois notre cerveau qui travaille beaucoup et qui commence à faire toutes sortes de raisonnements. Et là, on va aller dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 et le verset 15. Pourquoi pleures-tu ? Une question que Jésus a adressée à une femme. Vous vous souvenez qui c'est cette femme ? Jean chapitre 20 et le verset 15. Il s'agit de Marie de Magdala. Alors on peut lire à partir du verset 11 même. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Pourquoi pleures-tu ? Je réfléchissais. Est-ce qu'elle avait raison de pleurer, cette femme ? Quand on réfléchit. Oui ou non ? Alors pourquoi elle avait raison ? À votre avis ? Moi, j'aurais dit non. Parce qu'elle pleurait parce que le corps de Jésus n'était pas là, mais parce qu'elle croyait que quelqu'un l'avait enlevé. Elle pleurait parce qu'elle se trompait à cause de son raisonnement et qu'elle avait mis de côté, pendant à cause de la tristesse, à cause de la mauvaise compréhension, les paroles de Jésus qui avait dit : « Attention, je vais ressusciter au bout de 3 jours. » Donc elle pleurait, mais elle pleurait pour de mauvaises raisons. Est-ce que Dieu voulait que Marie pleure ? On voit bien que non, puisqu'il envoie Jésus. Il a permis que Jésus ressuscité, quand même, quelque chose d'incroyable. Jésus qui a ressuscité lui a apparu à elle, d'abord, pour consoler son cœur et pour qu'elle puisse être un témoin auprès des apôtres. Donc le but de Dieu, ce n'était pas qu'elle pleure. Au contraire, c'était de la consoler. Et ça nous fait penser que des fois, on est dans des pleurs, on est dans des tristesses, on est dans des angoisses peut-être. Pourquoi ? Parce qu'on commence à réfléchir, on commence à faire nos propres raisonnements. Un peu comme moi, j'ai commencé à faire mes raisonnements par rapport à mon erreur. Mais là, il y a tout qui a fusé. Et peut-être que si j'étais sensible, je me serais mis à pleurer aussi. Et Dieu aurait pu me dire : « Mais pourquoi pleures-tu ? Ça ne sert à rien de pleurer là. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? Pourquoi est-ce que tu es dans ces sentiments ? Pourquoi tu as fait tous ces raisonnements ? Reviens à la source. » Et combien on a besoin, d'aller dans la présence de Dieu et de connaître quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. Oui, il y a des choses qui nous inquiètent. Oui, il y a des raisonnements qui sont là et qui agitent notre esprit. Mais quand on est dans la présence de Dieu et quand on cherche à faire sa volonté, Dieu nous donne sa pensée. Et quand on a la pensée de Dieu, laissez-moi vous dire qu'on est dans une assurance incroyable. Quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire qu'on est dans le calme, le repos, la paix du cœur. Quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Et quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ça peut nous arriver de céder à la tristesse. Mais on a besoin de revenir à la parole et de laisser la parole imprégner notre cœur. Matthieu chapitre 26, verset 10, nous parle d'une histoire un peu pareille, mais pas tout à fait pareille. C'est un moment donné où Jésus reproche à ses disciples de faire de la peine à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les raisonnements peuvent nous amener dans la tristesse, mais il y a des fois où les raisonnements que nous avons dans nos pensées peuvent nous amener à blesser les autres personnes. Matthieu, chapitre 26, verset 10. Vous savez, c'est quand une femme pécheresse est venue, ou c'est Marie, alors je ne sais plus, on va le voir ensemble. Matthieu 26, verset Verset 6, on peut lire, hein, pour voir le contexte. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on recantera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. » Vous voyez que les raisonnements ont conduit les disciples. Et bien sûr, ils l'ont fait de manière un peu discrète pour pas trop que Jésus l'entende. Mais Jésus, qui connaît les cœurs, avait vu clair dans la situation. Il a vu que le raisonnement que les disciples avaient fait, est-ce qu'il était inspiré, ce raisonnement ? Il y a un autre passage qui nous montre que c'est Judas en particulier qui a été un peu la source de ce raisonnement. « Ah, on aurait pu vendre le parfum pour les pauvres. » Comme ça, on aurait pu faire beaucoup de bien aux pauvres. Bon, au passage, moi, je pioche un petit peu dans la caisse, donc ça m'aurait fait du bien aussi. Mais voilà, Judas était animé tout d'un coup d'une compassion envers les pauvres incroyable. Mais on voyait que ce n'était pas quelque chose de bon. Et les raisonnements qu'on peut faire dans notre esprit, oui, ça peut nous blesser à nous, mais ça peut nous amener à blesser les gens. Combien on a besoin d'aller dans la présence de Dieu et de laisser la pensée de Dieu nous modeler comme nous l'avons chanté. « Je ne suis qu'un vase entre tes mains, Seigneur. Je veux rester devant toi, quelqu'un de malléable, que mon cœur soit un cœur de chair. Je ne veux pas, comme l'entendait ce matin, endurcir mon cœur, écouter les messages après messages et dire oui, 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 et ne jamais rien faire. Et de cette manière-là, c'est le moyen le plus sûr pour endurcir mon cœur. Mais si je dis oui, Seigneur, tu as raison. » Je vais arrêter d'avoir des pensées, de raisonner de manière scientifique pour comprendre la parole de Dieu. Alors bien sûr qu'il y a des éléments scientifiques dans la parole de Dieu, mais je vais arrêter d'avoir des pensées philosophiques, des pensées, des raisonnements humains, terrestres qui m'amènent pas vers le ciel, mais qui me bloquent mon cœur. Oh, Seigneur, je veux avoir ta pensée dans mon cœur. Je veux protéger mes pensées avec ta pensée à toi. Si moi je suis dans ta volonté, alors le Seigneur va me garder. Connaissez ce passage, quand il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une fois qu'on a fait connaître notre besoin, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. » Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu ? Que vos cœurs et vos pensées sont gardés en Jésus. Combien c'est quelque chose de bon. Mais je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps. Protégeons nos pensées de la sagesse humaine. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être intelligent ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter tout bon sens ? Parce que, attention, des fois on nous fait dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire ça. Je crois que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, le mot exact, c'est la modération, l'équilibre. Est-ce que nous sommes remplis de l'esprit de sagesse, de modération, d'équilibre ? Est-ce que nous avons soif dans notre cœur de faire la prière de David ? Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je crois que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il va dans ce sens-là. Mais on ne s'appuie pas sur la sagesse des hommes, on s'appuie sur la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ça a été d'envoyer son Fils à la croix pour mourir pour nous. Et pour ceux qui réfléchissent, les gens qui sont des penseurs d'aujourd'hui, les Grecs à l'époque même, ils pensaient que c'était quelque chose de fou. Est-ce qu'un dieu va envoyer son fils mourir ? Non, les dieux à eux, c'était des gens qui faisaient des choses incroyables. Ils avaient aussi quelques faiblesses humaines, mais en tout cas, ils étaient magnifiques. Ils s'abaissaient jamais, ils s'humiliaient jamais. Oui, mais notre Dieu à nous, il n'est pas comme ça. Parce que c'est le vrai Dieu. Et il savait que le seul moyen que notre cœur, notre pensée puisse être transformée, c'est que Jésus puisse payer à notre place à cause de notre péché. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons dire oui, c'est une folie. Mais la Bible nous dit que la folie de Dieu, elle est beaucoup plus sage que la sagesse des hommes. Alors nous voulons nous soumettre à sa pensée. Et je pensais à ce verset, je ne sais pas si je l'ai noté, si, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix. Est-ce que vous comprenez ? Dieu veut sauver, il va sauver que les croyants, il ne va pas sauver les autres. ceux qui auront mis leur foi dans cette pensée que Jésus a pris leur place à la croix, que Jésus a subi leur châtiment, dans cette pensée que maintenant ils peuvent être l'enfant de Dieu. Et je voudrais finir rapidement avec ce dernier « Pourquoi de Jésus ?»« Pourquoi me persécutes-tu ?» qui se trouve dans Actes, chapitre 9. Vous savez, ça concerne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était rempli d'un zèle incroyable. Et je voudrais, au travers de ce pourquoi, mettre en évidence que dans notre cœur, des fois, il y a des pensées, ce que j'appelais les pensées passionnées. Passionnées, disproportionnées. C'est-à-dire qu'on se donne à fond dans une pensée en particulier, mais on ne se rend pas compte quand on a une pensée qui prend le dessus sur tout le reste. On est dans le déséquilibre et on est dans la disproportion et on est dans l'aveuglement. Actes chapitre 9, le verset... On peut lire le verset premier. « Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul !» « Pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et si on lit la suite, on se rend compte que au moment où il a vu la lumière, l'apôtre Paul est devenu tel qu'était son cœur jusqu'à présent à cause de cette passion, cette passion pour la religion. Il était totalement aveugle et il est devenu aveugle pendant 3 jours. Il a fallu que Dieu envoie un frère, Ananias, qui est venu prier pour lui. Et au moment où il impose les mains, cet homme, il a des écailles qui lui tombent des yeux et commence à voir la réalité du royaume de Dieu, la réalité de la vie spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ. Mais pendant 3 jours, il était dans les ténèbres. Il était vraiment tel qu'était son cœur jusqu'à présent. Parce que quand on a une pensée qui prend le dessus dans notre cœur sur tout le reste, on est aveugle. Jésus l'a dit d'une autre manière un peu, quand il dit ceci, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Vous savez, souvent, on entend des gens qui viennent nous voir, peut-être pas forcément ici, mais je pense à d'autres exemples, où des gens viennent nous voir et nous disent « Ah, vous avez vu telle personne, elle pratique tel péché. » Et en fait, on se rend compte que les gens qui ont un discernement en particulier pour voir le péché, tel péché chez les autres, c'est qu'en fait, ils l'ont beaucoup plus de manière importante dans leur propre vie, mais ils ne veulent pas le régler. Et ils ont comme une sensibilité particulière pour le péché, le voir chez les autres, mais en plus, ils sont très durs et très cassants. Il faut absolument qu'on mette en discipline une personne comme ça. Vous comprenez ? Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, qui vous reprochent, quelqu'un qui reproche envers quelqu'un, « Ah, tu as vu cette personne, comment elle ment, il faut agir, il faut faire quelque chose. » Et puis on se rend compte qu'en la connaissant un peu, elle est pire que l'autre personne. C'est exactement ce que dit Jésus. Imaginez, pendant un instant, je lisais une petite bande dessinée où il était représenté cette parabole. Imaginez, le dessinateur, il avait représenté l'homme qui avait la poutre dans l'œil, donc quelque chose d'immense, qui était en travers comme ça. Et il était en train de prendre avec une pince à épiler, il voulait sortir la paille qui était dans l'œil de son prochain. Et il a commencé à le faire. Alors, comme il ne voit pas très bien avec la poutre, vous imaginez devant, ce n'est pas très pratique. Il commence à faire son affaire, et puis on voit l'image d'après, le gars qui était à moitié défiguré, il lui manquait la moitié des cheveux, parce qu'il n'avait pas du tout visé là où il fallait, forcément avec la poutre comme ça. Et à un moment donné, le gars, il est parti en courant. Et puis il est revenu avec une scie pour pouvoir s'occuper de son frère, tellement il voulait l'aider lui aussi. Mais alors c'était quelque chose, c'était fait de manière humoristique, mais je réfléchissais que des fois on est de cette manière-là. Quand le Seigneur il donne cette image, ça paraît tellement gros, mais c'est vrai que quand on a une pensée dans notre vie qui prend le dessus, Paul c'était la pensée de la religion, il faut que ma religion elle soit sur le devant, je vais me consacrer, je vais être zélé. Est-ce que c'est mauvais d'être zélé? Ça dépend. Le zèle en soi, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce à quoi on consacre notre zèle, ce à quoi on consacre nos efforts. Si c'est pour des mauvaises choses, là on voit bien que c'était des mauvaises choses, respirant la menace et le meurtre, là ce n'est pas bon. Quel fruit je produis? Si j'ai du zèle dans ma vie, si je fais beaucoup de choses à l'église, c'est très bien. Quel fruit je produis? Des fois, on entend des personnes qui nous parlent de tout ce qu'ils font pour le Seigneur, mais qui le fruit dans leur vie, c'est ni l'amour, c'est ni la paix, c'est le trouble, la confusion. Est-ce que c'est l'exemple qu'il faut suivre? Est-ce qu'il ne faut pas dire, Seigneur, tu vois, j'ai tendance à faire beaucoup de choses, mais finalement, je ne fais pas ta volonté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, guéris-moi. Parce que quand on est dans cet aspect-là, on est dans un aveuglement total. Et la seule personne au monde qui peut nous guérir, c'est Jésus-Christ, qui est celui qui libère les captifs, celui qui guérit les aveugles. Alors cet après-midi, je voudrais conclure simplement en reprenant cette pensée. Nous allons en même temps participer à la Sainte Cène, à ce repas que le Seigneur nous demande de nous souvenir en mémoire de son sacrifice. Mais je voudrais relire ce passage. Cet après-midi, je crois que Dieu peut nous demander un pourquoi dans notre vie. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des progrès? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu doutes? Il y a un pourquoi que le Seigneur peut nous demander cet après-midi. Maintenant, c'est à nous de laisser le Saint-Esprit mettre en lumière les raisons, les pensées qui sont là, qui ne devraient pas y être. Mais Seigneur, je veux être dans ta pensée. Je veux faire ta volonté. Jésus a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées? Je vous avais dit ces choses, je vous avais dit que j'allais mourir, je vous avais dit surtout que j'allais ressusciter. Pourquoi vous inquiétez-vous de me voir ressusciter? Est-ce que vous êtes reconnaissant que le Seigneur Jésus est mort à la croix, qu'il a versé son sang, qu'il a permis que son corps soit brisé pour que notre péché puisse être effacé? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour cela? Amen, on l'est tous. Mais est-ce que vous êtes reconnaissant parce qu'il n'est pas resté au tombeau, parce qu'il est ressuscité, et parce que bientôt il va venir nous chercher. Mais il va venir nous chercher, il ne va pas venir chercher quelqu'un qui sera continuellement dans l'inquiétude, continuellement dans la peur, continuellement dans le doute, il va venir chercher quelqu'un qui sera dans la confiance, dans la foi, et dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'assurance, et c'est cette personne-là qui va venir chercher. Voilà pourquoi cet après-midi, il nous pose cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu laisses telle ou telle pensée prendre le dessus dans ta vie? Telle pensée d'incrédulité. Des fois, on entend les gens qui nous disent « Ah, l'incrédulité, c'est quelque chose qu'il faut chasser. » Non, l'incrédulité, c'est une décision du cœur. Soit je crois, soit je ne crois pas. C'est moi qui le choisis. Alors, cet après-midi, on va incliner nos fronts, fermer les yeux et demander la grâce de Dieu sur ces moments. Oui, nous voulons nous souvenir que Jésus a donné sa vie, que c'est pour nous qu'il a fait cela. Combien quand nous réalisons ces choses, nous reconnaissons son amour. Combien quand nous réalisons ces choses, nous reconnaissons sa bonté, sa compassion. Et je crois que cette parole que nous avons pu partager cet après-midi est encore une preuve de la compassion, de l'amour de Dieu envers nous. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans des pensées qui nous troublent, dans la confusion, dans le déséquilibre, dans l'aveuglement. Dieu veut que nous puissions marcher à la lumière de sa parole. Dieu veut que nous puissions marcher dans sa volonté. Dieu veut que nous puissions marcher dans un équilibre, dans une sagesse, une intelligence que nous communiquera le Saint-Esprit. Alors laissons l'action du Saint-Esprit se faire dans ces moments. Et mettons notre cœur à la lumière de Jésus-Christ. Écoutons le pourquoi qu'il nous dit cet après-midi. Quel pourquoi est-il en train de nous dire? Pourquoi es-tu dans la tristesse? Pourquoi ça fait tant et tant de jours que tu es dans l'abattement? Pourquoi ça fait tant et tant de jours que tu es dans le découragement? Pourquoi ça fait tant et tant de jours que tu n'avances plus avec le Seigneur? Que nous puissions répondre dans notre cœur à cette question du Seigneur. Et si nous entendons sa voix de manière plus précise, nous entendrons que Dieu veut nous donner sa paix. Que ma paix soit avec vous, dira le Seigneur. Oui, Éternel, nous te bénissons. Te bénissons pour ton œuvre, pour ton sacrifice. Te bénissons parce que cet après-midi, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Parce que Jésus, tu es venu sur la terre souffrir la mort pour que nous puissions être amenés dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de parler à nos cœurs, de nous garder, Seigneur, en toi. Garder nos cœurs et nos pensées en toi. Seigneur, oui, nous, combien nous voulons taper, combien nous ne voulons pas être dans l'inquiétude, dans le doute, dans cet esprit qui s'agite, Seigneur, mais nous voulons être à tes pieds et écouter quelle est ta pensée cet après-midi. Révèle ta pensée dans les cœurs par ton Saint-Esprit dans ces moments. Tu connais les situations, tu connais les ténèbres, tu connais ceux qui traversent la tempête. Seigneur, tu es celui qui veut amener la consolation, tu es celui qui veut amener, Seigneur, l'encouragement. Le Seigneur, tu es celui qui veut amener la paix dans les cœurs. Alors fais-le par l'action de ton Saint-Esprit. Et nous qui te connaissons, nous voulons nous lever devant toi. Nous qui avons été baptisés, nous voulons nous lever devant toi, nous souvenir que tout cela est possible parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci Éternel, que ton nom soit béni et que, Seigneur, chacun de nos cœurs puisse être ouvert pour comprendre ta parole dans cet après-midi. Amen.